There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et bienvenue dans Mercredi Mercato. Fan de Pierre Corneille, dont on retrouve l'héritage dans ses articles, il est aussi un fervent admirateur d'Edith Piaf. Tombé du nid pour venir à Eurosport il y a quelques temps, il goûte aujourd'hui à son heure de gloire pour Mercredi Mercato. Neveu de Pierre Laigle, et ça pour le coup c'est vrai.
Bien sûr.
Ouais, ça c'est vrai. Il n'est curieusement pas fan des Canaries, mais du football en général, mais pour jouer régulièrement au foot avec lui, on ne peut pas dire que le football soit fan de lui. Aujourd'hui, il prend son envol et on est fiers de lui. Comment ça va, Arthur Merle ?
Écoute, j'allais dire que ça va très bien. Ouais. J'étais très content d'être ici avec toi, mais cette présentation pour poursuivre dans la métaphore me fait battre de l'aile.
Pas mal, on va
essayer de s'en relever.
Pas mal. Pierre Laigle, tu te souviens quand même ?
Bien sûr, je m'en souviens.
Évidemment. La plus célèbre brosse de l'histoire du football.
Derrière Raphaël Brosse.
Oh, il est bon, il est là, il est bien. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent pas Pierre Laigle, je vous conseille, c'était quand même un sacré joueur. Mais il avait, c'est vrai, une coiffure particulière. Alors, on vous rappelle que le podcast est à écouter sur toutes les bonnes plateformes de podcast, que si vous voulez voir les gros bras d'Arthur Merle, parce que monsieur, il m'a avoué qu'il n'allait pas à la salle juste avant l'émission, qu'il faisait ça qu'à la maison en regardant des vidéos de Thibaut Inchey. Si vous voulez voir ses gros bras par rapport aux miens, il faut aller sur eurosport.fr, voilà. Et puis voilà, on peut y aller. On peut y aller. Alors, petit sommaire avant tout, on parlera, premier sujet, de Neymar. Qui veut aujourd'hui de Neymar ? Alors que City lui a mis un grand stop dans la tête cette nuit. Ensuite, Arthur, deuxième sujet, on parlera de l'OM.
Bien sûr, l'OM, on va se demander si le club phocéen fait un vrai mercato Ligue des Champions, parce qu'il y a beaucoup de recrues qui se valent, certaines qui sont arrivées avant Tudor, d'autres après. Voilà.
L'objectif, c'était un mercato Ligue des Champions. On verra que c'est plus un mercato Ligue Europa.
Exactement.
Et on terminera avec l'arrivée de De Ligt du côté du Bayern de Munich, qui pourrait être une vraie menace pour les Français en général et en particulier pour Benjamin Pavard. Et puis, on reviendra un peu sur ce mercato spécial du Bayern. Mais avant de développer tout ça, tu as trois dernières infos qui sont tombées dans la nuit, dans la matinée. Cher Arthur, nous t'écoutons religieusement.
Voilà, première info qui vient d'Italie. L'Inter, qui a été doublé par la Juve pour le défenseur central Bremer du Torino, eh bien, a priori ne compte plus tant que ça, vendre Milan Skriniar. La condition, ce serait une offre de 70 millions d'euros cash, ce que le PSG ne semble pas prêt à mettre, en tout cas pour le moment. La deuxième info, elle concerne toujours le PSG, avec Renato Sanchez. C'est l'équipe qui nous apprend que Paris n'a pas bougé depuis le refus de Lille de cette offre de 10 millions d'euros. Et en gros, eh bien, Lille et le Milan ont un accord. Et si le PSG n'a pas bougé d'ici 48 heures, Renato filera a priori au Milan AC, rejoindre la Serie A.
Et là, ça fait quand même deux infos pour le PSG qui ne sont pas bonnes, parce que c'est deux vrais objectifs. On pensait qu'ils allaient pas tarder à arriver, Skriniar et Renato, et finalement, ça sent un peu le roussi. Et là, prenez votre masque à oxygène, parce que là, vous passez de l'Alpe d'Huez à Palavas-les-Flots. Hein. Là, on va bien descendre, là. Décompression, vas-y Arthur, voilà, pour la troisième.
Voilà, parce que toi tu prépares des introductions assassines. Moi je prépare des infos mercato pour te faire plaisir.
Bah, pour me faire plaisir.
Le milieu offensif de Pau, Victor Lobry, qui débarque à l'AS Saint-Etienne, ça devrait être bouclé, officialisé ce mercredi.
Ah, c'est chaud là.
Et puis c'est pas tout. Non. Mathieu Cafaro.
Ah, on met les choses bien. Pardon.
Qui va aussi rejoindre le Forez, ouais, l'ancien là. Milieu de terrain de Reims qui évolue aujourd'hui au Standard de Liège. Voilà, deux recrues de poids pour l'AS Saint-Etienne. Ouais. L'objectif, remonter en Ligue 1.
Et si on poursuit, ils veulent se séparer d'Adil Aouchi, c'est pour ça qu'ils recrutent au milieu.
Exactement.
Mais quand tu passes de Cafaro à Renato Sanchez, c'est vrai que là, mercredi mercato a pris un petit coup.
L'image des changements de température entre mardi et mercredi. Voilà.
Exactement. Il est météo. Alors, il fait de la muscu. Il est météorologue. Il connaît le football comme sa poche. Est-ce que tu as un défaut, Arthur Merle ?
Oh, bien sûr, mais on va pas en parler tout de suite.
Allez, Urban, t'as quelques défauts.
tu les as tous évoqués, en fait. J'ai plus besoin.
T'as même que des défauts, Urban. Allez, on y va. Qui veut de Neymar ? Pourquoi on a décidé de vous parler de Neymar ? Bah parce que le Parisien, c'était hier, mardi, annonçait que le PSG avait mis Neymar comme monnaie d'échange pour un joueur de Manchester City dont l'identité n'a pas filtré, ça pourrait être Bernardo Silva. Et Pep Guardiola nous a dit cette nuit, pourquoi cette nuit? Parce que Manchester City est aux États-Unis en tournée. Il a dit non, mais l'information du Parisien est fausse. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il l'a répété plusieurs fois. Et il a dit qu'effectivement, on se servait souvent Manchester City. On mettait Manchester City à coller à 150 noms dans l'été. Mais non, Neymar n'est pas en cause. Hein, c'est-à-dire, c'est un bon joueur et c'est sans doute quelqu'un de très sympathique. Mais City ne veut pas entendre parler de Neymar. Et ça pose un problème, Arthur, parce que le PSG, un peu à la manière de Kimpembe, Neymar est non pas sur la liste des indésirables, mais s'il y avait une offre qui convenait à Paris, eh ben, Paris aurait été très heureux de libérer Neymar. Problème, moi personnellement, je ne vois que deux clubs qui auraient pu tenter d'attirer Neymar. Manchester City, pour des raisons économiques, parce que Neymar, c'est un salaire autour de 35 millions d'euros et qu'il n'y a pas beaucoup de clubs européens aujourd'hui qui peuvent se payer Neymar. City a donc mis un stop. Le deuxième, c'était pour des raisons plus sentimentales, le FC Barcelone. On sait que le Barça n'a toujours pas fait son deuil de Neymar. Mais le Barça, je ne vais pas vous faire un dessin, mais en une semaine, ils ont acheté Lewandowski, Rafinha et ils ont prolongé Dembélé. Donc si vous voulez, Neymar, il ne fait plus vraiment partie du projet. Donc s'il n'y a pas City et s'il n'y a pas le Barça, Arthur, ça me paraît compliqué pour Paris de se séparer de Neymar cet été.
Ouais, ça va devenir très compliqué puisque tu as commencé à le dire, il n'y a plus vraiment de clubs qui peuvent se l'offrir au-delà de City et du Barça. Les clubs auxquels on pourrait penser éventuellement, c'est des clubs plus exotiques, mais aucun de ces clubs-là exotiques ne va venir le chercher cet été avec une belle indemnité de transfert à payer. Si Neymar veut partir un jour, il faudra d'ailleurs qu'il baisse son salaire, ça paraît évident. L'autre chose que, enfin moi, ce qui m'a marqué aussi dans les déclarations de Pep Guardiola, c'est le côté Neymar, je l'aime beaucoup, c'est un très bon joueur, il a l'air très sympa dans un vestiaire, mais voilà, c'est pas pour nous. Et j'ai l'impression que la grande majorité des clubs vont adopter ce discours-là aujourd'hui au sujet de Neymar, parce que sa cote n'est plus celle d'avant. Ça fait plusieurs saisons que c'est compliqué pour lui, plusieurs saisons que physiquement il a l'air moins bien, qu'il est moins tonique. C'est extrêmement choquant. Quand on revoit les images de son premier match avec Paris, de faire la comparaison avec aujourd'hui, c'est assez choquant. Donc voilà, Neymar, il semble dans une impasse, entre guillemets, pour partir. Après, est-ce qu'il veut partir?
Après, lui, il veut rester. Donc lui, ça ne pose pas de problème.
Donc, quelque part, ce n'est pas vraiment une impasse parce que ce qui ressort, c'est qu'il a envie de rester. Je pense qu'en termes d'ego, il a aussi été piqué par tout ce qui s'est dit cet été, par ce qu'il a entendu sortir de la part de ses dirigeants de manière officieuse, on va dire.
Mais même Nasser Al-Khelaifi, hein, qui a dit très clairement dans l'équipe, nous, on veut des joueurs concernés par le projet, qui aiment Paris, qui y viennent pour les bonnes raisons. Assez clairement, il visait Neymar. Galtier, pour le coup, lui, s'est mis plutôt derrière son attaquant brésilien parce qu'il est en première ligne et pas parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais ce qu'il faut dire aussi, et moi, ce qui me paraît aujourd'hui, c'est la première chose qu'il faut dire, c'est que Neymar, a priori, son contrat court jusqu'en 2027.
Oui.
Il a un salaire de 35 millions d'euros, 36 millions d'euros. Quel serait aujourd'hui l'intérêt pour lui de partir? Il lui reste 50 contrats à ces hauteurs-là. Quand on voit tous les gros joueurs qui ont quitté leur club alors qu'il leur restait un an de contrat, on pense à Robert Lewandowski, ou tous ceux qui étaient en fin de contrat, Pogba, Dybala, Dembélé, tous ces gens-là ont diminué, mais drastiquement,
bien sûr,
leur salaire. C'est-à-dire qu'ils sont tous aujourd'hui payés autour ou en dessous de 10 millions d'euros. Tous ces mecs-là, même Pogba qui était à des hauteurs incroyables à Manchester United. Donc si aujourd'hui Neymar veut quitter le PSG, il faut qu'il sache que la réalité du marché aujourd'hui, elle est plus celle qu'elle était il y a quelques années, que le marché s'est vraiment réorienté sur des salaires beaucoup plus bas, et qu'aujourd'hui il y aurait 50 contrats, donc il n'a aucune raison sportive déjà, parce que je pense qu'il n'y a aucun club du niveau du PSG qui serait prêt à l'engager, mais surtout économique.
Ouais. Moi, si je dois faire une comparaison, je comparais un petit peu son cas. Alors, de très loin, ce n'est pas les mêmes enjeux à celui de Cristiano Ronaldo. Parce qu'aujourd'hui, je me mets à la place des clubs. Autant Lewandowski, Mané, qui sont à des âges à peu près similaires ou un peu plus âgés pour Lewandowski, ont trouvé très facilement preneur une fois qu'ils ont voulu quitter leur club. Autant Neymar, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, quel entraîneur veut d'un joueur qui déjà coûte aussi cher à son club et qui, en plus, donc c'est là la comparaison avec Ronaldo, a autant d'impact dans un collectif, c'est-à-dire qu'il faut tout reconstruire autour de ces joueurs-là. Ce n'est pas des joueurs comme Mané que vous pouvez venir ajouter très facilement à un collectif. Donc moi, pour moi, c'est ça qui pose quand même énormément de problèmes. Après, si on veut se projeter sur des choses un peu plus positives sur la suite pour Neymar, là, on a vu la première composition du PSG avec Neymar sous Christophe Galtier. Donc, il est aux côtés de Kylian Mbappé avec Lionel Messi en soutien. Je pense que Neymar va pouvoir évoluer peut-être un peu plus près du but cette saison, ce qui est peut-être en adéquation avec sa légère baisse physique quand même depuis quelques saisons. Et c'est cohérent par rapport au rôle qui est le sien au Brésil aussi, où de plus en plus il joue très axial, soit en pointe en faux neuf, soit en soutien d'un attaquant de pointe, mais de moins en moins sur le côté. Donc on pourrait peut-être voir un Neymar dans un registre légèrement différent, mais toujours avec de la liberté bien sûr.
Avec une limite, c'est que le Paris Saint-Germain veut s'attacher encore des services d'avant-centre, alors même a déjà signé. Donc l'idée quand même de Galtier, il l'a dit je crois dans une interview à l'équipe cette semaine, c'était quand même d'associer Mbappé à un avant-centre. Dans ce cas-là, où on met Neymar, c'est un peu plus compliqué. Donc de toute façon, il faudra trouver une place. Mais ce qui est certain, c'est quand même que Galtier l'a plutôt brossé dans le sens du poil, Neymar, alors qu'il a été challengé par les journalistes sur la question du Brésilien. Galtier veut le mettre de son côté. De toute façon, je pense qu'il n'a pas le choix parce que, comme on a dit avant, Neymar aura du mal à trouver une porte de sortie. Et de toute façon, il veut aller fermer la porte et c'est lui qui a les clés. Donc je ne vois pas comment il pourrait aller ailleurs cet été. Donc qui veut Neymar? Pas grand monde. Et même lui ne veut pas s'en aller. Donc pour moi, le dossier est bouclé.
Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est réglé.
On passe à Marseille, cher Arthur.
Avec plaisir.
On passe à Marseille avec... l'OM qui n'a pas encore officialisé Jonathan Clauss, mais ça devrait le faire. Il était à Marseille, je crois, dès hier. Marseille qui, en revanche, a présenté ses recrues. Donc Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaac Touré, trois défenseurs centraux. Pour l'instant, ce sont les seuls recrues de l'OM.
Luis Suarez qui a été annoncé l'accord.
Voilà, mais c'est pas encore officiel. Présenté, bien sûr. Tout comme Blanco, le gardien qui sera la doublure, qui remplace Mandanda du côté de l'Olympique de Marseille. Bref, on va se poser une question parce que les contours du mercato marseillais sont quand même de plus en plus nets. Arthur, je vais te poser la question claire et nette. Marseille voulait un recrutement Ligue des Champions parce qu'on sait qu'ils vont retrouver la C1 cette année. Est-ce que c'est un recrutement C1?
Alors, je vais te répondre par des chiffres d'abord, qui vont être une bonne illustration. Mmh. Parmi les recrues, j'ai même visé large, hein. J'ai pris les recrues dont ils ont levé les options d'achat, donc Milik, Under, Paolo Lopez, etc.
C'est sympa.
Je suis très sympa.
T'es très gentil.
Parmi toutes les nouvelles recrues et ces options d'achat levées, vous avez Chancel Mbemba, 26 matchs de Ligue des Champions, et Arkadiusz Milik, 19 matchs de Ligue des Champions, Cengiz Under, 11 matchs de Ligue des Champions. C'est les seuls qui ont une expérience en C1 parmi toutes les recrues de l'OM cet été. Je pense que la première réponse, elle est là.
L'OM, même parmi les cibles qui ne sont pas encore arrivées, c'est-à-dire Jonathan Clauss, même Jordan Veretout, on parlait de Tavares aussi, tous ces mecs-là n'ont jamais joué un match de Ligue des Champions.
Voilà, donc ça fait une expérience très limitée. Alors, il y a des matchs de Ligue Europa, mais la Ligue Europa, ce n'est pas la Ligue des Champions. Ça donne l'impression d'un effectif, on en parlait un petit peu avant, qui est très homogène,
exactement,
avec très peu de têtes qui dépassent. Ouais. Tu parlais de Payet, il y a Gerson également, Guendouzi, des joueurs comme ça qui, individuellement, sont au-dessus quand même de la mêlée. Mais globalement, on est sur un effectif qui n'est pas clinquant sur le papier. Après, moi, ce que j'aime dans cette construction d'effectifs, c'est que les profils sont extrêmement ciblés. C'est-à-dire que la justification pour Luis Suarez, c'était que Igor Tudor avait besoin d'un attaquant qui fasse beaucoup de courses, qui vienne au pressing. Il a besoin de ça dans son système en 3-4-3 qu'il mettait en place à l'Ilias Vérone et qu'il va répéter ici. Qui dit 3-4-3 dit aussi des pistons qui auront un rôle très important, d'où Jonathan Clauss, d'où Lazovic, j'espère que j'écorche pas son nom,
c'est ça.
Qui est une piste très sérieuse a priori pour le couloir gauche. Lazovic et Clauss, c'est des joueurs qui auront beaucoup plus de mal à jouer dans un système à 4. Donc ça veut dire que l'idée est très précise, c'est très carré ce processus de recrutement de l'OM, c'est pas clinquant mais au moins c'est très carré sous la houlette de Longoria bien sûr.
C'est vrai qu'on pouvait reprocher un moment à l'OM de saisir des opportunités. Moi, je pense à Luis Enrique qui est venu. On ne sait pas trop pourquoi il est venu. Il est reparti. Là, c'est des joueurs qui, effectivement, vont avoir un rôle à occuper. Et on sait déjà le rôle qu'ils auront à occuper. En revanche, et pour revenir là-dessus, est-ce que ce sont des joueurs qui font passer le 11 olympien dans une autre dimension? Non. Est-ce que c'est un recrutement Ligue des Champions? Non. Pour moi, c'est un recrutement Ligue Europa. Ce ne sont pas des joueurs qui vont... on va être très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, alors H, même en imaginant que Lazovic ou Klose signe, est-ce que le 11 de l'OM sera meilleur que celui de l'an dernier? Il y a beaucoup plus de défenseurs centraux, mais il manque le meilleur. C'est-à-dire que Saliba est parti. Est-ce que Gigot, est-ce que Mbemba, est-ce que Touré remplace Saliba? Dans la quantité, oui. Dans la qualité, non. Et pour moi, c'est un recrutement quantitatif, mais pas qualitatif. Prenons mieux de terrain aussi. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui estiment que Camara a certaines limites. En revanche, pour moi, les trois meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille l'an dernier, c'était Camara, Saliba et Payet. Il n'en reste qu'un. Veretout, pour moi, ce n'est pas du niveau de Camara. Et il n'y a pas aussi la marge de progression qu'à Camara. Peut-être que parmi tous ces mecs qui arrivent, le transfert que je trouve peut-être le plus intéressant, c'est Touré. Parce que voilà, il a une marge de progression, il a 19 ans. Et voilà, il était scruté par Manchester City, il y a un vrai potentiel. Donc peut-être que c'est un mec qui va prendre une dimension à l'OM. Mais sinon, Jonathan Klose, 29 ans. Alors je dis pas Jonathan Klose, c'est très bien en Ligue 1.
Hein. Oui, bien sûr.
Ouais, Jonathan Klose en Ligue 1, c'est très bien. International français, mais on voit qu'en équipe de France, c'est pas non plus incontournable. Voilà, moi je suis, comme tu le disais, je reste un peu sur ma faim parce qu'on n'a pas des mecs qui apportent une vraie plus-value au collectif. On parlait du secteur offensif de l'OM. Luis Suarez, est-ce que c'est meilleur que Bamba? Est-ce que c'est meilleur que Under? Est-ce que c'est meilleur que Bakambu? On est quand même sur des profils. Alors, pas des profils, mais des niveaux qui se ressemblent. Voilà. En défense, c'est pareil. Il y a 6 défenseurs centraux. Il n'y en a pas un qui sort du lot. Donc, voilà. J'ai peur qu'en Ligue des Champions, ce soit un peu juste.
Ouais, et puis... Alors, c'est peut-être un peu sévère, mais c'est presque au-delà de la Ligue des Champions, dans le sens où Samuel Gigot... Il n'a pas de référence dans un top championnat européen. C'était surtout le Spartak Moscou. Mbemba, donc, il a pour lui cette expérience en Ligue des Champions, mais c'est le FC Porto dans la.
Et puis même à Porto, il n'était pas la star.
Et c'était pas la star. Et je ne crois pas que c'était le joueur le plus régulier non plus défensivement à Porto. Voilà, donc on n'est même pas rassuré sur le fait que l'OM a un effectif pour jouer les tout premiers rôles en Ligue 1. Ouais. Alors après, peut-être que dans 2 mois, on nous dira, vous voyez...
C'est vrai que quand on voit Lacazette et Tolisso à l'Olympique Lyonnais...
C'est ça, c'est là où j'allais en venir, c'est que à l'échelle déjà européenne, il y a pas mal d'équipes qui font des mercatos plutôt intelligents, en Angleterre, etc., mais avec plus de moyens. Mais si on veut comparer ce qui est comparable, l'OL, effectivement, la comparaison fait très mal à Marseille, parce que Tolisso, champion du monde, expérience en Ligue des Champions, Lacazette, une certaine expérience aussi...
Ah putain, un jour du Bayern.
Et puis Tagliafico qui va arriver, ouais, qui a une grosse expérience Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam. L'OL s'est armé comme s'il allait jouer, en tout cas qualitativement plus que quantitativement, comme s'il allait jouer la prochaine Ligue des Champions. Donc c'est ça qui fait un petit peu mal à l'OM.
Après, on est sur deux logiques différentes. On a le qualitatif du côté de l'Olympique Lyonnais, qui en plus n'a pas perdu de force vive, je veux dire essentielle jusqu'ici. Alors peut-être que Paqueta s'en ira, qu'on dira autre chose à ce moment-là. L'OM qui a perdu des forces vives, encore une fois, Camara, Saliba, c'est l'épine dorsale de l'OM qui a terminé deuxième, et qui en plus se renforce avec des profils qui, pour le moment, alors on espère qu'ils nous feront mentir pour les Marseillais, mais qui, pour le moment, ne garantissent pas un 11, un meilleur 11. Quoi. Voilà, tout simplement.
Et dernière chose...
Conclue, je t'en prie.
Je crois qu'ils sont à 55, 57 millions d'euros de dépenses quand même, Marseille, sur le mercato. Donc, pour des joueurs où il n'y a pas de tête qui ressort, ça fait un certain montant. Et encore une fois, pour essayer en comparaison avec l'OL, c'est beaucoup plus que Lyon. Donc, Marseille n'a pas un budget pour faire une grosse folie sur cette fin de mercato non plus. Quoi.
Peut-être qu'on comprend un peu mieux pourquoi Sampaoli a claqué la porte.
Exactement.
C'était un signe annonçateur peut-être d'un mercato. Non pas décevant, mais on aurait pu attendre mieux pour un club qui retrouve la Ligue des Champions. On va terminer avec un club qui, lui, est tout le temps Ligue des Champions. Ce n'est pas un sujet. La qualification Ligue des Champions, ce n'est pas un sujet. Généralement, ils vont en plus plutôt loin quand ils ne la gagnent pas. C'est le Bayern Munich qui a annoncé le transfert de Matthias de Ligt. Matthias de Ligt pour 67, mais si on inclut les bonus, ça peut monter jusqu'à 80 millions d'euros quand même pour le défenseur de l'Ajax d'Amsterdam, de la Juventus Turin, formé à l'Ajax d'Amsterdam, le défenseur des Pays-Bas. 80 millions d'euros bonus compris pour un défenseur central. Et c'est le Bayern Munich qui continue de construire sa défense centrale. On sait qu'ils ont perdu énormément depuis quelques années. Boateng, Hummels.
Alaba.
Alaba, évidemment. Évidemment, Alaba que j'avais oublié. Et c'est un secteur, qui est exposé du côté du Bayern Munich. C'est simple, sur les 4 dernières années, les 3 plus gros transferts du Bayern Munich chaque été, c'est un défenseur central. Il y a eu Lucas Hernandez pour 80 millions d'euros, il y a eu Upamecano pour 40...
Oui, c'était une grosse quarantaine.
Une grosse quarantaine de millions d'euros, et De Ligt, donc, cet été. Ça dit quoi? Bah, ça dit que le secteur en chantier, malgré le départ de Robert Lewandowski, eh bah, ça reste cette défense centrale. Une défense centrale, le plus souvent à 3 l'an dernier, qui était composée essentiellement de Français, Upamecano, Hernandez et Pavard. Ça dit quoi? Ça dit que cette arrivée de De Ligt risque de mettre en péril aussi l'avenir de Benjamin Pavard du côté du Bayern Munich. D'autant que s'il fallait, si Benjamin Pavard se disait bah, peut-être qu'il me mettra piston droit, ce qu'il n'espère pas, Benjamin Pavard, pour en avoir beaucoup parlé avec lui, il veut se fixer dans l'axe, bah, il y a Mazraoui qui est arrivé aussi. Donc de toute façon, que ce soit à droite ou dans l'axe, la place de Pavard est assez clairement mise en danger. Sky Sport annonce que Pavard pourrait quitter le Bayern Munich. Ça sent le roussi quand même pour lui avec cette arrivée de De Ligt.
Ouais, ça sent le roussi et pas que pour lui d'ailleurs. Alors, Pavard, sur le départ, je crois que le Bayern veut en réclamer 35 millions d'euros, en gros, son prix d'achat.
Et ce qui n'est pas énorme pour un joueur qui a quand même, bah, qui était central quand même avec Nagelsmann.
Et dans un marché du défenseur central qui est extrêmement prisé. Ouais, on voit tous les clubs qui se battent Chelsea. Pour les mêmes joueurs. Koundé, Koulibaly était presque sorti des débats avant de signer à Chelsea. Il y a très peu de défenseurs comme ça qui sont disputés entre les clubs. Donc c'est un marché.
Kimpembe aussi. Il y a l'Atletico qui cherche un défenseur central. C'est un mercato de défenseurs centraux.
Et donc c'est un mercato dans lequel vous pouvez facilement faire grimper quand même les prix pour ce genre de joueurs. Il y a aussi Tanguy Kouassi au Bayern qui avait été recruté au PSG. Je crois qu'il a 20 ans aujourd'hui. Bon, lui, il va devoir faire ses valises.
Ouais, lui, à un moment,
je sais que tu n'es pas fan du profil, mais Niklas Zoule a déjà plié bagage pour Dortmund. Le tank.
J'en ai même pas parlé de Zoule, effectivement. Mais c'est vrai qu'il
Qui avait sa place dans la rotation. Il avait été gêné par des blessures aussi. Mais bref, il a rejoint Dortmund. Donc ça fait pas mal de mouvements. Et effectivement, c'est pas très rassurant pour Benjamin Pavard. Parce que Upamecano, il avait été ramené par Nagelsmann. Donc il l'avait sous ses ordres à Leipzig. Donc on sait très bien qu'il va vouloir le faire progresser et lui faire franchir un cap après cette première saison un petit peu en dents de scie. De Ligt, bah, c'est aussi une recrue Nagelsmann, bien évidemment. Pavard, ce n'est pas une recrue Nagelsmann. Est-ce que de base, c'est un joueur qu'il voulait inclure dans son 11? Est-ce que s'il avait eu le choix, plus de choix, il l'aurait fait? Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, ça ressemble à un été charnière pour Pavard. Et tous ces mouvements autour des défenseurs centraux au Bayern confirment deux tendances dont tu as déjà commencé à parler. C'est que le Bayern met de plus en plus d'argent sur le marché des transferts. Là, ils sont sur le point d'exploser leur budget d'achat. Enfin, ils vont battre leur record d'achat sur un mercato. Et qui plus est sur les défenseurs, depuis 2019, 237 millions d'euros d'achat de défenseurs centraux.
Ah ouais, ça c'est
juste énorme pour un club qui n'a pas ou qui n'avait pas cette réputation de dépenser outre mesure.
C'est vrai. Mais hormis le Roi Sané, il n'y a pas eu de... Enfin, les grosses dépenses concernent des défenseurs
toujours
centraux.
Toujours
Et c'est jamais des... Alors, défenseurs centraux, c'est un peu plus dur d'être une gigastar. Mais bon, De Ligt, on ne peut pas dire que son aventure à la Juve soit absolument sensationnelle. Il n'a pas la hype qui l'accompagnait au moment de son départ de l'Ajax Amsterdam. Lucas Hernandez, c'est costaud, c'est très bien aussi, mais c'est pas non plus c'est pas Sergio Ramos, quoi. Voilà. Exactement. Donc, le Bayern reste quand même fidèle à ce qu'il est, c'est-à-dire recruter quand même des joueurs, soit qu'on peut continuer à faire progresser, mais jamais des joueurs à des salaires absolument. Et c'est tout le sens aussi de ce qu'on a vu cette semaine avec Cristiano Ronaldo, où le Bayern a à moult reprises répété que il avait mis un petit stop à Cristiano Ronaldo, parce que ça ne correspond pas à l'ADN du Bayern. Donc le Bayern garde son ADN, mais est confronté aussi à un marché des défenseurs centraux et des autres d'ailleurs, dont les prix continuent de grimper. Il s'adapte, mais pour des défenseurs centraux. On va voir ce que ça donne, parce que jusqu'ici, quand même, que ce soit Lucas Hernandez ou Upamecano, ils n'ont pas donné leur pleine mesure au Bayern Munich. Alors, pour différentes raisons. Lucas, on pense aux blessures. Upamecano, évidemment, c'est sa première saison, donc il y a eu des très bas, des très hauts, mais ça manque de régularité. Et l'objectif du Bayern, pour aller au bout en Ligue des Champions, ce qui reste quand même l'objectif numéro 1, c'est de trouver de la régularité à ce poste-là. Et on sait qu'en plus, être défenseur central au Bayern Munich, dans une équipe qui joue à 12 devant, Et Benjamin Pavard nous en avait bien parlé dans l'interview qu'il nous avait accordée au mois de juin. C'est pas tous les jours facile quand tu vois débarquer 5 joueurs offensifs face à toi et que toi tu es un peu dépourvu parce que tes pistons ils sont partis à l'abordage et que tes milieux aussi. C'est un poste clé, défenseur central.
Vous êtes particulièrement exposé, c'est vrai, quand vous êtes défenseur central
de Nagelsmann.
Au Bayern et en particulier de Nagelsmann. Parce que c'est vrai qu'on rigole souvent en disant qu'il y a 10 attaquants dans la compo de départ.
Pas loin.
Vous avez des profils très offensifs qui se retrouvent à défendre comme piston dans les couloirs. Après, bon, ça avait changé un petit peu la saison dernière. Parfois, ils défendaient à 4, parfois à 5 ou à 3, c'est selon. Donc, le cas des défenseurs du Bayern Munich en général et de Pavard en particulier va peut-être aussi dépendre du 11 et du système que va utiliser Nagelsmann la saison prochaine. Mais voilà, si on veut conclure sur le mercato global du Bayern, c'est vrai que ça reste quelque chose de très sérieux quand même.
Oui.
Ça dépense plus, certes, mais ça vend très bien aussi.
Ça dépense beaucoup, mais ce n'est pas au niveau non plus du Barça.
Oui, voilà, ça reste correct. On est sur des 140 millions d'euros l'été. Quand on voit les prix de certains transferts, ça reste correct, entre guillemets, on s'entend, à l'échelle du football. Et puis surtout, le Bayern ne fait pas n'importe quoi. Alors, on a de plus en plus de joueurs importants qui quittent le Bayern ces dernières saisons. Thiago Alcantara, Alaba, qui n'avait pas voulu prolonger, Lewandowski, qui a fait le forcing pour le départ. Ça, c'est comme une nouveauté, des joueurs phares qui veulent quitter le Bayern. Mais à ce moment-là, le Bayern reste fort. Ils ont récupéré 40-45 millions d'euros pour Lewandowski à un an de la fin de son contrat, à la trentaine bien tassée. Très belle vente. Et puis là-bas, bon, ils voulaient un trop gros salaire, et ben tu t'en vas, c'est très simple. Donc le Bayern reste un club quand même très solide sur ses appuis.
C'est le moment que je préfère.
Bien sûr, le Merca Quiz.
Bah oui, le moment que je préfère, le Merca Quiz avec Quentin qui va nous rejoindre. On va voir, Arthur, parce que tu as des gros bras, on va voir ce que tu as dans le ventre. Donc on accueille Monsieur Quentin Guichard.
Salut messieurs.
Comment ça va?
Salut,
et par
Quentin.
Contre, pour ceux qui vont nous regarder en vidéo, il faut partir en vacances à un moment. Parce que là, là, j'ai l'impression d'être avec un aspirine. Là. Si vous voulez régler le blanc sur vos télévisions, il faut partir à un moment.
Ouais.
Je sais que t'es breton, mais c'est pas une excuse.
Je me nourris de travail, Martin, et donc c'est toujours compliqué pour moi de quitter le bureau.
Donc c'est store fermé. En même temps, pendant la canicule, c'est pas plus mal.
C'est pas faux, ouais, j'ai pas trop souffert ces derniers jours, donc je suis plutôt pas mal.
Allez, vas-y, on est chaud. Hey, Arthur, en poussant la fonte comme ça, il a révisé tous les noms de tous les joueurs d'Europe.
J'espère, parce qu'il doit se
rattraper. Les gens vont être déçus quand même. Ceux qui vont écouter le podcast vont ils vont me voir à l'image, ils vont dire, mais en fait, il n'y a rien du tout.
Si, il y a des biceps.
Il y a un petit peu quand même.
Beaucoup plus que Quentin et moi.
Ouais, ça c'est réuni.
Réunis, exactement.
Petit rappel des règles quand même, Martin,
vas-y.
Parce que ça fait longtemps que t'es pas venu.
C'est vrai.
Je vais égrener la carrière d'un joueur.
Ah oui, non, mais ça je connais.
Non, mais pour nos amis auditeurs qui découvriraient l'émission, je vais égrener la carrière d'un joueur. Le premier de vous deux qui découvre l'identité de ce joueur remporte le duel, tout simplement.
Tout simplement.
Arthur, t'as été...
J'allais même pas dire battu.
Non, pas battu.
Humilié.
Voilà, giflé.
J'ai même pas participé en fait.
Non,
là, je la considère comme ma première.
Tu faisais acte de présence la semaine dernière. 0-0, balle au centre. C'est parti.
Faisons comme ça.
On donne un nom de joueur avant ou pas?
Ah oui, c'est la règle 2022. La règle qui fait tant polémique.
La règle en bois.
La règle en bois.
Donc moi, j'ai bien réfléchi par contre. Ça fait un mois que j'ai réfléchi.
Ouais, bien sûr.
Donc là, je pense avoir le bon.
Ok. Veux-tu tenter tout de suite?
Ouais.
Allez.
Youssouf Koné.
Non,
J'étais persuadé, j'ai perdu, c'est fini. J'ai pensé à Youssouf Koné.
C'est pas ça du tout.
Voilà.
Moi, je vais rester dans mon idée de Bundesliga.
D'accord,
je
toujours.
Je persiste.
Ah non, pas de la Bundesliga.
Tu persistes et tu signes.
Exactement. Tu parlais du Bayer Leverkusen. Tu croyais pas si bien dire. Je pars sur un Patrick Schick.
Oh, c'est joli, mais c'est pas ça. Mais c'est bien tenté. Ah,
on sort du Hazard, Patrick Schick. Bon, après,
c'est pas mal.
Ne mets pas des joueurs de Bundesliga, s'il te plaît.
C'est trop tard, là. Hein.
Ouais, là, c'est...
Allez, vas-y.
Je nais et grandis dans la Drôme.
Ah !
Mon père est un...
Pour commencer.
Anthony Mounier.
Mon père est un ex-joueur de football ayant évolué dans le club amateur de l'Espérance ostunoise.
Ok, Kevin Platini.
Club de... club de la région de Valence, bien sûr.
Ok, donc on est drômois.
Voilà.
De père en fils.
Étant un grand fan de l'Olympique de Marseille... Je m'oriente très vite vers une carrière footballistique.
Tolisso, il n'est pas drômois, là.
Je commence très jeune le football à l'AS Valence. Durant la saison 2010-2011, j'évolue en 5e division française. Je suis découvert par Sébastien Régache, qui me suit pendant plusieurs mois avant de me proposer et de me recommander à Jean-Noël Cabza.
Ah bah oui, Jean-Noël Cabza, c'est...
L'entraîneur de l'équipe réserve du Clermont Foot, club que je rejoins en 2011.
Ah, Clermont.
Après de bonnes performances en CFA 2 avec l'équipe réserve...
Franck Honora ?
Je participe aux entraînements du groupe professionnel dès le mois d'octobre 2011. Je suis titularisé pour la première fois par Michel Derzakarian lors d'un match de championnat face à Châteauroux. Je signe mon premier contrat professionnel quelques mois plus tard, en février 2012.
Ça va aller vite, là. Mmh.
Dès 2012, je reçois ma première convocation de la part de Rachid Taoussi, sélectionneur du Maroc, dans le cadre d'un match amical opposant le Maroc au Togo.
Oh putain.
Je rentre à la 79e minute de jeu en remplaçant Zakaria Berdic pour une défaite 1-0. En juillet 2013, je signe un contrat avec Le Havre en Ligue 2. Ouf. Je suis titularisé pour mon premier match aux côtés de Riyad Mahrez. En janvier 2014, je marque mon premier but face à Metz dans un match de championnat. Je finis par être titularisé tout au long de la saison 2013-2014. À l'occasion de mon dernier match sous le maillot du Havre, je marque un but face à Auxerre. Je sors sur une standing ovation des supporters et suis remplacé par Ludovic Gamboa.
Non mais la Ligue 2, c'est toi Arthur. Enfin, c'est moi maintenant, mais avant c'est...
Au Havre, j'ai joué 65 matchs et marqué 3 buts.
Ok.
On est sur une rockstar. Okay.
Après 2 saisons en Normandie, je m'engage en juillet 2015 au SCO d'Angers.
C'est là Boufal.
Promu en Ligue 1. Dispute mon premier match à l'extérieur face à Montpellier où je porte le numéro 28 pour une victoire 2-0. En septembre 2015, je marque mon premier but sur une passe décisive de Billy Ketkeo Fonfon face à Lorient. Au match retour, je marque un autre but face à la même équipe en mai 2016.
Mais oui, c'est latéral.
Je joue mon dernier match sous les couleurs du SCO. Quelques semaines plus tard, je signe à Wolverhampton.
Putain, mais
En Championship, non. Je joue mon premier match officiel face à Newcastle en portant le numéro 27, très apprécié par l'entraîneur Mounio Espirito Santo. Je joue littéralement tous les matchs en tant que titulaire. Je marque mon premier but face à Burton Albion.
Il est quel poste?
Attends, on est où là?
Dès la venue, on est en 2016. Là.
On est à Newcastle.
On est à Wolverhampton. Oh, il a débuté contre. Faut suivre. Il a débuté contre Newcastle.
Attends, un Marocain.
Dès la venue.
Saïs,
Romain Saïs, bien sûr. Bien sûr, Romain Saïs, bravo Arthur. Ça a été laborieux.
Moi je cherche un attaquant, mais il n'est pas du tout.
Bien sûr que non,
mais
il n'est pas
en plus, il a 20 ans quoi.
Ah ouais, là c'est donc Romain Saïs.
Moi j'étais sur Aït Nouri aussi au début.
Il commence en 2011,
le franco-maroc, capitaine du Maroc.
Ok, Romain Saïs.
Romain Saïs, ouais, mais là c'était.
Le Havre, Clermont, on n'avait pas.
Ah non, pas du tout. Moi j'étais sur Franck Honora, tu vois.
Écoute.
Voilà. C'est un échec.
Mais on l'embrasse, Franck Honora.
On l'embrasse, on aime beaucoup Franck Honora.
On l'aime beaucoup.
Là, c'est un super joueur qui fait gagner plein de matchs à MPG. Oui. Il serait temps que t'en gagnes d'ailleurs.
T'es pas dans les bonnes ligues pour pouvoir gagner parce que j'ai plusieurs titres à mon
actif. Bien sûr, si tu joues avec ta petite sœur et ton neveu de 6 mois, évidemment, tu peux gagner des titres.
Des personnes très sérieuses que tu connais en plus.
Voilà.
Rien de sérieux dans tout ça, si tu gagnes, c'est forcément pas sérieux. Merci Quentin.
Bien, merci à toi.
Je fais pas la même chose à Arthur parce que sinon il est sympa. Merci à celui qu'on surnomme la brindille. Adrien Yo,
bien sûr.
Heureusement que le vent ne souffle pas trop en ce moment, sinon on le retrouverait plus.
À perpète,
exactement. Ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouveau numéro de Mercredi Mercato. On se retrouve la semaine prochaine, et je ne sais pas avec qui, mais je crois qu'il y aura...
Pas avec moi, donc tu auras peut-être une chance de gagner Mercredi Mercato, le Merca Quiz du coup.
Mais non, parce que je ne serai pas là, moi je suis en vacances.
Ah,
donc,
voilà,
si tu veux, là tu voulais me cacher, mais moi
ça
je suis en vacances.
Pas.
Tranquillement, à l'île d'Oléron, j'écouterai Mercredi Mercato.
Oh,
petit huître.
Tu sais te faire plaisir, non, toi, tu ne te refuses rien.
Petite huître, là, tac, tac.
Attention au couteau quand tu ouvres les huîtres. Ah, toujours positionné comme
chaud. Ça. C'est chaud. Mais je mets un petit chiffon.
Attention aux huîtres tout court.
Attention aux huîtres.
Les huîtres de l'île d'Oléron, tu peux les yeux fermés.
Ça, c'est quoi? C'est de la OC, ça?
Évidemment, attends, t'es à Oléron.
Non, mais t'es à Oléron, t'es pas n'importe où.
Donc rendez-vous la semaine prochaine, moi je vous écouterai avec une petite huître dans la main. Et puis, voilà, c'est tout. À la semaine prochaine, bisous, ciao.
Ciao.
Salut tout le monde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.